Bonjour et bienvenue chez les Papous de France Culture pour une récré en deux temps avec Côté privé, SOS mariage, version masculine et féminine. Côté politique, la lettre de Colbert à Vatel et ceux qui sont suivis. Jacques Jouet.
J'écris sur du papier en tête qui dit ceci. Jean-Baptiste Colbert, conseiller du roi, conseiller royal des finances, contrôleur général des finances, secrétaire d'état de la maison du roi, secrétaire d'état de la marine royale, surintendant des bâtiments et manufactures, président de l'association hostile au cumul des mandats.
Les mots nouveaux pour le dire, imaginés par Jean-Bernard Pouy. Un petit rimailleur bien sympathique, celui du crapaud. Et côté public, les papous tout amour, le bonus avec les plaintes de l'arrêt d'Archimboldo et la publipapoucité Feuille d'automne, Patrice Caumont.
Les sanglots longs des violons de l'automne percent mon oreille sous l'appareil sonotone.
On ne se quitte plus jusqu'à 13h58. Françoise Tressard et la belle équipe vous souhaitent un joli dimanche papou à télécharger sur franceculture.fr, rubrique podcast pour vos collections de papou à réécouter dès que l'envie vous prend. Merci de votre fidélité et un grand salut à ceux qui nous rejoignent. Pour lancer ce numéro des papous dans la tête d'une histoire tout en SMS, imaginé par Jacques Abertrand, il y aurait urgence, un Jacques sous pseudonyme.
Je suis Aldabert.
C'est un joli nom, Aldabert. Ça.
Oui, oui.
Aldabert, c'était il y a longtemps,
qui
non
revient, ça revient à la mode.
Oui.
Et je viens de recevoir un SMS de ma chérie et je réponds. 10h30. Tout va bien, tout va bien. C'est un beau jour pour mourir.
Ah.
10h32. Tu es vexé, mais voyons, c'est juste une citation. C'est ce que le chef Sitting Bull aurait dit le matin de la bataille de Little Bighorn. 10h34. Encore plus vexant. C'est juste qu'il devait faire beau aussi ce jour-là, n'en prends pas ça mal. Je t'en prie, il n'y avait aucun sous-entendu. 10h36, d'accord, d'accord. J'essaierai à l'avenir d'être plus judicieux dans le choix de mes citations. 10h38, d'accord, d'accord. Je ne ferai plus jamais de citations. 10h40, naturellement je suis prêt, enfin presque. 10h42, je devrais être parti. Mais c'est comme si c'était fait. Je donne un coup de brosse à mes chaussures, je saute dans mes pantalons et dans un taxi. 10h44. Mais non, je ne vais pas être en retard, c'est tout prêt. 10h46. Ah bon, c'est là? Je croyais que... Bon, je cours. Tous les taxis sont occupés. 10h50. Je vais faire du stop. 10h51. On peut pas retarder un peu ce truc? 10h55. C'est minuté à ce point-là, il y en a d'autres juste après. 10h59, bon, de toute façon, ce serait bête de faire ça à la va-vite. 11h10, oui, je suis encore loin, naturellement. Personne ne va prendre en stop un type qui court comme un dératé en jurant. 11h18, j'en peux plus, j'arrête. 11h22, veuvage. 11h24, ton père va me tuer. 11h25, ton frère aussi. 11h26, bon, regardons les choses en face. Tout bien réfléchi, surtout dans la bousculade comme ça, au fond... Je ne tiens pas vraiment à me marier. D'abord, ce n'était pas mon idée. Si on restait amis...
À noter sur vos agendas notre prochain rendez-vous public au studio 105 de la Maison de la Radio, vendredi 9 décembre, de 20h à 22h30. C'est toutes les 5 semaines. Et avec combien de plaisir que nous vous accueillons dans cette jolie salle pour 2h30 de jeux littéraires. Avec les papous, c'est la récré pour lutter contre la morosité. Rien de mieux que le sourire, le rire, les émotions que nous partagerons avec vous. Le Noël des papous dans la tête ou la fête avant les fêtes, vendredi 9 décembre à 20h. Et ce soir-là, dans la belle équipe, Serge Joncourt, Violaine Schwartz, Hervé Le Tellier, Eva Almassy, Jacques Abertrand, Patrick Beignet, Odile Conseil, Lucas Fournier, Jeanne Carillon et Jean-Bernard Pouy au piano pour accompagner nos jeux en musique, Vadim Cher. Pour réserver, c'est obligatoire, vous vous rendez sur le site maisondelaradio.fr. Et soyez sympa, vous réservez si vous êtes certain de venir. Autrement, le site affiche épuisé, alors que parfois il reste des places libres. Avouez que c'est vraiment dommage. Le Noël des papous dans la tête, vendredi 9 décembre de 20h à 22h30 au studio 105 de la Maison de la Radio. Venez pour la fête avant les fêtes. Aujourd'hui est un jour très politique, avec les primaires de la droite, mais chut, pas le droit de prononcer le nom. Pourtant, nous serons politiques avec Jacques Jouet et Patrice Minet. Jacques Jouet, écrivain profondément politique, mais drôle. Jacques Jouet qui nous parle d'économie et nous livre un secret d'histoire à sa façon. Quelle est la situation, Jacques ?
Nous sommes à la cour du Roi Soleil.
C'est très chic, donc. On est tous très habillés. Sophie et moi avons des robes à paniers et des perruques.
Des mouches.
Et des mouches sur les joues.
C'est à peu près ça. Alors, je suis Colbert et j'écris à François Vatel.
Ah, très bien, oui.
J'écris sur du papier en tête qui dit ceci. Jean-Baptiste Colbert, conseiller du roi, conseiller royal des finances, contrôleur général des finances, secrétaire d'État de la maison du roi, secrétaire d'État de la marine royale, surintendant des bâtiments et manufactures, président de l'association hostile au cumul des mandats. Ma lettre est datée du 27 avril 1671. La date a son importance quand on sait que Vatel se fait harakiri à Chantilly le 24 avril précédent. Mon cher Vatel, je vous écris aussi rapidement que je le puis suite à un dossier classé urgent qui vient de m'arriver parmi beaucoup d'autres sur mon bureau. À première vue, il y a une petite révolution dans les ports de pêche de la mer du Nord et de la Manche, grâce à vous, et ça ne me plaît qu'à moitié. Je ne sais pas par où prendre le dossier. Les marins-pêcheurs m'ont tout l'air de vous avoir dans le nez. À Dieppe, les pêcheurs de raies et de barbus adressent une pétition contre vos courtiers, commandant le lundi 500 pièces de cette sorte, tandis qu'un mandement le mardi vient annuler la commande pour changer les premiers en carlet et limande. Faut-il que raies et barbus leur restent sur les bras, je vous le demande? Pendant ce temps, les pêcheurs de carlet et de limande de Fécamp sautent à pieds joints sur le marché qui leur échoit sans se concerter avec leurs confrères, lesquels versent sur les chemins les raies et barbus qui commencent à sentir et rendent l'acheminement des chariots depuis Fécamp totalement impossible. À Boulogne, les huîtriers se plaignent que les paniers qui devaient leur être retournés depuis Chantilly ne leur sont point parvenus et qu'ils se trouvent en conséquence dans l'impossibilité de charger en vrac les 500 douzaines en commande. On brûle une tonne de sol et de bardeline sous les remparts d'Arc-la-Bataille, tandis que les canons de la citadelle sont bourrés de moules et de bulots et tirés à mitraille par une bande de jacques contre les pêcheurs de la baie de Somme venus en délégation pacifique à la capitainerie de Dieppe. Pas une seule corporation de la Haute-Normandie qui n'ait de reproche à vous faire quant à la gestion, par vous et vos affidés, de la grande distribution entre la pêche et l'assiette du consommateur. Quand ce dernier se nomme Louis II de Bourbon-Condé, dit le Grand Condé, ou le prince de Ligne, qui n'est tout de même pas le dernier des macros, et même, m'a-t-on dit en l'occurrence, le roi en personne, je crains qu'il y ait là une façon de forfaiture. Si je suis quant à moi, jusqu'à ce jour, mon cher Vatel, un amateur de vos festins, vous êtes quant à vous une autre sorte d'amateur, et ce n'est pas, dans ma bouche, vous l'aurez compris, un compliment. Je n'admets pas qu'on mette à feu et à sang toute une profession, sans même apparemment s'en rendre compte. Je ne sais pas ce qu'ont finalement réussi à manger les 3000 invités de monsieur le prince de Condé, je ne veux pas le savoir, n'ayant pas le bonheur d'avoir été invité, mais je vous demande de prendre langue dans les meilleurs délais avec mes services de marketing, afin que ceux-ci vous accueillent pour un stage de formation de longue durée qui saura vous acclimater avec les règles de base de cette nouvelle discipline. Lorsque vous aurez effectué avec succès ce complément d'éducation professionnelle, seriez-vous disponible pour assurer dans ma maison un repas de 4000 couverts avec produits de la montagne, truites, agneaux, vaches de salaire et fromage du même nom? Mais il faudrait évidemment que cette fois que les livraisons soient ponctuelles et que les éleveurs de l'Aubrac ne soient pas enclins à dégainer leur laguiole pour des duels avec les fromagers. Duels que j'interdis même, vous le savez sans doute, à tous mes mousquetaires et pas qu'à trois. J'espère, mon cher Vatel, que cette lettre vous parviendra en temps utile. Je vous donne le bonjour de Madame Colbert, qui me disait hier avec son à-propos légendaire « Monsieur Vatel, comment va-t-il » Colbert.
Ah oui, alors évidemment, à l'époque, le courrier mettait quand même pas mal de temps à arriver.
24 avril, 27 avril.
Oui, donc il s'est suicidé le 24. 24 et la lettre est partie le 27.
Ah, oui, elle est partie le 27.
Comment va-t-il faire pour répondre? Ça, c'est une question. Lucas, vous avez la solution.
Pas du tout. Non, pas du tout. Comment va-t-elle, va-t-il répondre?
Eh bien, va-t-elle, c'est Patrice Millet, ou feu va-t-elle, c'est Patrice Millet, je ne sais pas.
Alors, figurez-vous.
Oui.
Que c'est le responsable du bureau de poste de Chantilly,
oui,
qui répond à Colbert.
Ah, carrément.
Carrément.
Ah, ben, le service public à l'époque de Colbert,
ils sont
ça fonctionne très bien.
Ça marchait bien. Et puis les postes étaient ouverts toute la journée, je suppose.
Oui, et même la nuit.
Oui,
mais
même
on y buvait sec.
Enfin, c'était la crème à Chantilly du personnel.
Monsieur Colbert.
Bon, oui.
Je n'ai pas pour habitude de répondre aux courriers pendant les heures de travail, mais votre qualité ainsi que d'autres circonstances m'autorisent à le faire. La lettre destinée à Monsieur Vatel à Chantilly était insuffisamment affranchie.
Ah non, quelle erreur. Ah mon Dieu.
Vous avez mis un timbre à un sou collé sur l'enveloppe, la lettre aurait mérité un timbre à 2 louis. Ah. Rangée par le préposé dans la case prévue à cet effet dans l'office, elle y est restée pendant quelques années. Nous manquons de personnel et les services postaux subissent des réformes continuelles dans leur organisation, sans compter les bureaux qui ferment, qui ouvrent et qui sont déplacés. Puis, il y a eu la guerre. Enfin, une guerre. La poste de Chantilly...
Il y en a plusieurs.
Oui, il y en a. La poste de Chantilly est devenue un hôpital. Puis, quelques autres guerres. Et enfin, il y a quelques jours, cet endroit est redevenu une poste, avec votre serviteur comme responsable. Et qu'est-ce que je vois dans le tiroir des plis non distribués? Votre lettre. Et donc, évidemment, je l'ouvre en me demandant qui m'a écrit en 1671, c'est-à-dire il y a 3 siècles. Oui, monsieur Colbert, je m'appelle Vatel. Vous m'accablez de reproches dans votre lettre, comme quoi j'aurais mal fait mon travail et que les harengs et les thons envoyés par Chronopost commenceraient à sentir mauvais. Mais, monsieur Colbert, je n'y suis pour rien. Je viens juste d'être affecté. Avant, j'étais fleuriste à Barbizon. Si vous voulez déposer une réclamation, il faut remplir l'imprimé 6 juin, le dater, le signer et l'envoyer à l'adresse en bas de la feuille. Si nous constatons un réel préjudice, nos services feront le nécessaire pour que vous soyez remboursé du prix du paquet et du poisson. Enfin, si j'ai bien compris, vous m'invitez à déjeuner à Versailles. Je suis obligé de décliner, j'ai lu le menu et malheureusement, je suis végétarien. Je reste néanmoins à votre service, signé Gérard Vatel, responsable des postes à Chantilly.
Sympa quand même, mais vous ne lui avez pas collé d'amende finalement pour le timbre?
Ben, maintenant, s'il veut récupérer sa lettre, ses timbres, son poisson,
oui.
Il faut qu'il...
Je pense que c'est un autre M. Colbert qui a dû recevoir.
Ah, c'est Jean-Pierre Colbert.
C'était un très vieux magicien qui sortait de son beau chapeau des chimpanzés, des chats, des chiens, des vaches, des cochons, des veaux. Des souris vertes, des rats blancs, des boas, des éléphantaux, des biches aux abois, des élans, enfin tout un tas d'animaux. Sa femme disait, mon bon André, le magicien s'appelait André, je pense un peu que tu compliques, si les colombes, je sais bien, te donnent des poussées allergiques, au moins fais sortir un lapin, au moins fais sortir un lapin. Au moins fais sortir, au moins fais sortir, au moins fais sortir un lapin. Au moins fais sortir, au moins fais sortir, au moins fais sortir un lapin.
Moi aussi, moi aussi.
C'était un très vieux magicien qui sortait de son haut de forme des vis, des lits à baldaquin, des clés de douce, des uniformes, des chaussettes sales, des radiateurs, des crucifix, des bilboquets, des locomotives à vapeur, un tas d'objets inopinés. Sa femme disait, mon pauvre André, vous ai-je dit qu'il s'appelait André? Il faut toujours que tu compliques, toujours que tu fasses ton malin. Quand on a un chapeau magique, ben on fait sortir un lapin, ben on fait sortir un lapin. On fait sortir un lapin. On m'a fait sortir un. On m'a fait sortir. On m'a fait sortir un lapin. C'était un très vieux magicien qui sortait de son grand galure des ciels d'orage diluvien, des arcs-en-ciel, des clairs obscurs, des bouleversements climatiques, des cyclones, des rats de marée, des jaillissements volcaniques, tout un tas de calamités. Sa femme disait, mon pauvre Dédé. Oui, bon, ça va, disait André. À la longue, tu m'indisposes à dire que je fais mon malin. J'ai quand même le droit, je suppose, de ne pas aimer le lapin. De ne pas aimer le lapin.
Comment c'est possible, ça?
Je t'emmerde.
T'es méchant.
Le lapin de Juliette.
Alors, on boit un coup? Attends quoi? Attends que j'écoute les papous. Les papous, et c'est dans la tête, tous les dimanches, à 12h50. Et c'est sur France Culture.
SOS, une histoire tout en SMS, qui pourrait bien répondre à celle de Jacques Bertrand. C'est Eva Almassy qui l'a écrite, une histoire autobiographique, Eva.
Bah, c'est une jeune fille, ça n'est pas moi. Mais je vais faire, je vais faire semblant d'être celle-là. Mais elle s'appelle Odile, alors. Et j'écris à un de mes contacts dans mon téléphone que j'ai enregistré à la lettre X pour que si quelqu'un cherche un Olivier, ne le trouve pas. Et donc, il y a un X-Olivier.
Ah, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que vous cherchez à cacher, Eva?
Bah, c'est ce qu'on verra. Samedi matin à 9h. Ça approche, ça commence, je m'affole. Ma mère et ma future belle-sœur me déshabillent. Tu m'imagines? 9h10, je n'ai plus rien sur moi. Où dissimuler le mobile? Je l'ai caché sous le tapis, mais j'ai du mal à taper mes textos avec les orteils. 9h15, toujours debout, toute nue, au milieu de la pièce. On me rhabille, on me met des rubans. J'ai l'estomac noué. 9h20, something old, something new, something borrowed, something blue. 9h21, pardon, j'ai oublié que tu ne parlais pas anglais. Elles disent que je dois apporter un élément ancien, un élément neuf, un élément emprunté, un élément bleu. Cet habillage ne me dit rien qui vaille. 9h25, tu m'as toujours dit que je ressemble à Mila Jovovich. J'aimerais avoir la force qu'elle a dans le cinquième élément. 9h, parce qu'il y a eu 4 éléments d'habillage.
Ben oui.
9h35, au secours, elle enfile sur mes bas une jarretière qui sera distelle, mise en vente. Sur la tête, elle me place un voile de tulle et une couronne de fleurs. Tu as reçu mon selfie SOS par MMS? 9h40, mon père toque à la porte en bas, on m'amène. Là, il y a une pause, puis ça reprend à partir de 10h. 10h01, j'y vois rien. Je pénètre dans l'obscurité au bras de mon père. Ça sent l'encens et la myrrhe. On joue du Mendelssohn. 10h09, un curé me pose une drôle de question. Attends, je tape au fur et à mesure. Odile Dupont, voulez-vous prendre Jean-Pierre Lemercier pour époux, de l'aimer, le chérir? 10h10. Point, point, point. Dans la richesse comme dans la pauvreté, 3 petits points. 10h11, dans le bonheur comme dans l'adversité, et ce, 3 points. 10h12, jusqu'à ce que la mort vous sépare. 10h13, Olivier, si tu reviens, j'annule tout. 10h50, dernier message. Mais dépêche, dépêche-toi donc, on me lance du riz, je crois que c'est cuit.
Vive la mariée! Des mots nouveaux pour le dire, des mots qui permettraient d'aller plus vite à l'essentiel. Par exemple, pour dire tourner brusquement dans une rue à angle droit sans mettre son clignotant, eh bien, il y a un mot nouveau, c'est le verbe cléboter, un verbe imaginé par Jean-Bernard Pouy. Des mots nouveaux pour le dire, on en a inventé tout plein aux papous. Ils sont d'ailleurs répertoriés dans le dictionnaire des papous dans la tête, paru chez Gallimard. Est toujours disponible. Vous y découvrirez aussi la cramignole, ce vide parfois agréable que laisse l'être aimé dont on partage l'appartement en quittant les lieux après une vive altercation pour une babiole. Cette vision de la vie à deux est signée Patrice Delbourg. On va donc jouer à imaginer 6 mots nouveaux, à les glisser dans une histoire de 8 à 10 lignes, c'est le rôle de Jean-Bernard Pouy, qui testera ensuite ces mots nouveaux auprès de notre traducteur Lucas Fournier. C'est parti, vos mots nouveaux, Jean-Bernard Pouy, qui doivent bien sonner français.
Ah oui, oui, il n'y a pas de will be, il n'y a pas de truc comme ça.
Non.
Il y a deux verbes.
Oui.
Trapiner, T-R-A-P-I-N-E-R.
Premier groupe classique, hein,
E-R. Et gromader. avec un G, gromadé.
Gromadé, c'est mignon, c'est un gromadé. Je gromade, tu gromades.
J'ai rien gromadon, à voir avec gromadaire, ni rien, non, bon, j'ai gromadé.
Non, oui.
Après, comme mot, il y a les ou la grassolette,
ouais.
La pertacole.
Pertacole, ça fait presque percolateur, ça, non? Enfin, on n'est pas si loin, je ne sais pas si on est... Ou A ou Offenbach, oui, vous avez raison, vous êtes plus culturel que moi, sur le coup.
La rétipade.
Que des noms féminins.
Oui, mais moi, il n'y a que ça qui m'intéresse.
Oui.
Et l'espanade.
L'espanade, L apostrophe.
Oui, oui.
Un espanade.
Un espanade, mais on dit l'espanade.
Oui, comme celle des Invalides.
Oui, c'est ça.
Était très amusante ce soir.
Impavides. L'espanade des impavides.
Oui. L'espanade des impavides. Oui.
Bah, ce sont des mots qui sentent l'histoire. Hein. Je ne sais pas laquelle d'ailleurs, mais vous serez traduit, vous serez soumis à quelqu'un. Ouais, vous verrez. Alors, ces mots, vous les avez glissés dans une histoire que vous avez imaginée.
La veille au soir, j'avais longtemps gromadé. Et au matin, résultat, j'étais atteint d'une espanade carabinée. Je suis descendu 3 stations de métro avant celle de mon rendez-vous pour pouvoir trapiner pendant une bonne demi-heure. J'avais peur que mes propositions soient réduites à l'importance d'une grassolette. Étant donné la confiance que j'avais en moi, ça ne m'aurait pas surpris. Arrivé devant la grande porte vitrée, j'ai devant le regard interloqué des vigiles caressé honteusement ma pertacole. Et puis, devant le regard rassuré des mêmes vigiles, j'ai utilisé mon rétipade.
Point final.
Point final.
Ah oui, on sent qu'il y a un suspense intolérable, hein, parce qu'on se demande un peu
dit,
qui est ce type.
Vous m'avez dit 8-10 lignes, il y en a 8-10.
Bon, on va écouter un petit peu de musique, et puis on va vous retrouver avec un traducteur qui vous aura traduit. Et on verra si vos sens des mots correspondent aux siens.
On va voir.
Que sera,
we will be there, will be.
Jean-Bernard Puy, vous aviez imaginé des mots très très jolis, comme pertacole, grossolette ou gromadé, le verbe gromadé, à ne pas confondre, avez-vous dit, avec le gromadaire.
Ouais, absolument.
Et vous aviez écrit un texte, une histoire avec ces 6 mots nouveaux que nous avons confiés à Lucas Fournier pour traduction. Alors, d'abord, votre point de vue, Lucas Fournier, sur ces mots, est-ce que ce sont des mots qui vous ont parlé ou c'était difficile?
Non, ce sont des mots très agréables.
C'est vrai?
Les mots sont agréables. L'histoire est très désagréable, mais les mots sont
alors,
très agréables.
Et oui. Quel est votre préféré?
Comment c'est grassolette.
C'est mignon, grassolette. Hein. Une grassolette.
Oui.
On imagine quelque chose de charmant.
Oui, c'est quelque chose de charmant.
C'est pas le cas, Jean-Bernard. Oui. Ouais, alors, ben, on va d'abord décoder les mots les uns après les autres, puisque vous avez dû, vous aussi, imaginer un sens à ces mots.
Oui, dans l'ordre
Lucas Fournier.
De leur
proposition. Ah, dans l'ordre de présentation à l'antenne, oui.
Gromadé, verbe du premier groupe.
Oui.
C'est rédigé dans un style poutino-proustique des projets d'articles pour le journal municipal de Saint-Pétersbourg.
Ah, oh, mais il fallait un verbe. Comme vous avez eu raison de l'inventer, Jean-Bernard Pouy.
C'est pas, en fait, c'est pas ça, mais c'est pas très loin. Ça
ah
revient
bon
au même. Ça revient au même. Oui.
Mais poutino-proustique,
l'action est la même.
Ça fait rêver, poutino-proustique.
Non, ça rend fou.
C'est difficile, bah, justement. Oui, ça rend fou. D'où le mot espanade qui vient après.
Oui, qui est.
C'est une hallucination consistant à voir défiler successivement les beaux visages des candidats à la primaire.
Ah,
là non plus, il n'est pas très loin.
C'est
pas ça, mais il n'est pas loin non plus.
Les beaux visages, vous diriez, oui. Les visages empreints de solennité, c'est ça.
Oui, et de gravité républicaine des candidats à la primaire. Il y en a beaucoup. Hein.
Il y en a énormément, gauche, droite, écolo.
Il y a plein de primaires, il y en a plein.
Oui.
Ensuite, nous avons le verbe trapiner. Alors, c'est assez simple, c'est marcher en lisant une page de la recherche du temps perdu. En se demandant si on ne l'avait pas déjà lu quelques instants auparavant et s'astreindre à la relire pour vérifier la véracité de cette intuition.
Ça arrive hein, de trapiner, mais il n'y avait pas le mot.
C'est pas très loin non plus.
C'est vrai.
C'est bizarre. Hein,
mais alors. Comment peut-il être si proche et si loin à la
mais
fois
en tout cas, dans l'action, c'est la même chose, c'est marcher.
Trapiner, c'est marcher.
Oui, il y a marcher dedans. Donc,
on sent.
Entre Proust et écraser des merdes de chiens, c'est pareil.
Ah non, marcher avec Marcel Proust, c'est quand même...
Non, il y en a un qui élève l'esprit voilà. Quand même.
Oui, enfin...
mais avec Marcel Proust, ça arrive très souvent qu'on se demande si on n'a pas déjà lu la phrase.
Oui.
Et en fait, non, on s'aperçoit que c'est toujours la même phrase.
Mais... Oui, c'est mieux de rester dans Proust que Poutine. Finalement, Poutine n'existait que dans le premier verbe.
Alors, la grassolette, c'est un mot très utile et que je vous invite à utiliser le plus souvent possible, ou pas d'ailleurs. C'est la mousse de champagne rosée qui glisse le long du goulot après qu'un déboucheur maladroit n'a pas su maîtriser l'exercice délicat de l'ouverture de la bouteille.
Ah.
Il y a toujours un petit...
Oui.
Alors, ça arrive avec la bière, mais je ne dis pas
de
mots.
Il y a des gens qui mettent leurs doigts, qui se touchent l'oreille parce qu'il paraît que ça porte bonheur.
Et ben voilà.
La grassolette.
Et qui apprend l'eczéma.
c'est
radical.
Et ben
mais
voilà,
il n'est pas loin non plus.
C'est
le même sens sémantique à chaque fois.
Je mets des grassolettes dans les oreilles, oui. C'est
oui.
Ça. Alors... Le pertacole, ça c'est un petit buste portatif représentant Vladimir Poutine.
Ah voilà, qu'on le retour de Poutine.
Qu'on peut porter en sautoir.
Ou en broche peut-être aussi,
c'est peut-être joli. Pertacole, oui.
Non, vous porteriez un pertacole, Jacques Bertrand? Vous
non.
aimeriez en porter un?
Non, je supporte mal.
On est très loin.
On est très loin.
Ah ouais, non, rien à voir.
C'est-à-dire, il n'y a pas de Poutine dans votre histoire?
Il n'y a jamais de Poutine dans mes histoires.
D'accord.
C'est une décision.
Et ensuite, alors...
La note se passe à Saint-Pétersbourg, donc c'est quelques justifications. Et alors, un rétipad, c'est un vieil appareil photographique jetable qui est retiré des marchés depuis l'avènement des téléphones portables.
Ah, évidemment.
Oui, il n'y en a plus.
Donc, il n'a pas eu le temps d'être jeté.
Non, celui-là, il n'a pas été jeté, mais c'est un rescapé, quoi.
Point de jonction, pas. On s'éloigne, là, je sens, Jean-Bernard.
Rétipad ?
Oui.
Non, mais tout le reste est tellement près que... Enfin, ça se passe pas à Saint-Pétersbourg. Hein.
Voilà.
Enfin, bon. Quoique, ça pourrait. Ouais, je veux dire que ça se passe à
Saint-Pétersbourg. Peut-être c'est une histoire, à votre façon, adaptable à d'autres situations.
C'est le genre de question auquel on ne peut pas répondre, sinon je suis obligé de parler.
Ah non,
mais
alors,
non, mais enfin, c'est adaptable à toutes les villes qui ont au moins 3 stations de métro.
Ah bon ?
Donc ça, parce qu'il y a 3 stations de métro dans le texte de JB, donc de toute façon.
Oui.
Voilà, ça ne peut pas se passer sur l'île de Ré, quoi.
On a fait le tour, là.
Oui.
Et donc maintenant, vous infiltrez vos définitions à vous dans le texte de Jean-Bernard Pouille, pour faire votre traduction.
Oui, en se mettant un peu dans sa peau, parce que...
Ouais, il y aurait un titre.
En imaginant qu'il est le personnage.
Ouais.
Oui.
Et bon courage.
Oui. s'appelle, je sais pas, le titre, ça pourrait être « Absence de perspective Nevski ».
Oui, d'accord.
La veille au soir, j'avais longtemps rédigé, en un style poutino-proustique, des projets d'articles pour le journal municipal de Saint-Pétersbourg. Et au matin, résultat, j'étais atteint d'une hallucination carabinée consistant à voir défiler successivement tous les beaux visages des candidats à la primaire. Je suis descendu 3 stations de métro avant celle de mon rendez-vous pour pouvoir lire en marchant la page de la recherche du temps perdu dont je me demandais si je n'avais pas déjà lu quelques instants auparavant et m'astreignis à la relire pour vérifier l'acuité de cette intuition. J'avais peur que mes propositions soient réduites à l'importance de la mousse du champagne rosé qui glisse le long du goulot après qu'un déboucheur maladroit n'a pas su maîtriser l'exercice délicat de l'ouverture de la bouteille. Étant donné la confiance que j'avais en moi, ça ne m'aurait pas surpris. Arrivé devant la grande porte vitrée, j'ai, devant le regard interloqué des vigiles, caressé honteusement mon buste portatif de Vladimir Poutine. Et puis, devant le regard rassuré de ces mêmes vigiles, j'ai utilisé mon vieil appareil photographique jetable, retiré des marchés depuis l'apparition des téléphones portables.
Vous diriez que c'était un bon moment.
Moyen, quoi.
C'est moyen. Mais pourquoi il est honteux comme ça? Parce qu'il y avait honteusement dans le texte de Jean-Bernard.
Oui, non, parce que le texte, il y a un peu de honte qui transpire.
C'est très net, en tout cas, dans la traduction.
Oui. Alors, je sais pas, dans traducteur.
Il y a une situation plus honorable, quand même.
Oui. Alors, donc, d'après vous, on est assez proche tout en étant lointain avec la traduction de Lucas Fournier, mais vous ne vous sentez pas trahi?
Non.
Vous pouvez nous dire de quoi vous avez voulu parler? Quel est le sens de ces mots pour vous? Gromadé, par exemple.
Alors, gromadé, c'est chercher, et ça peut prendre des heures, la position idéale pour sa tête sur l'oreiller.
Ah, pour dormir.
Ah oui.
Et des fois, c'est terrible.
Qu'est-ce que je connais.
D'ailleurs, il y a une citation de Françoise Sagan que j'ai trouvée.
Oui.
Jusqu'au moment où elle réalisa que gromader, c'était ridicule, puisque la meilleure position pour sa tête serait de reposer sur l'épaule de ce beau garçon.
Ah oui, vous connaissez ce texte d'Alphonse Allais, La Barbe ?
Oui, bah, en dessous.
Cet
au-dessus,
homme
oui,
qui avait une barbe que tout le monde lui enviait.
Non, mais la tête, c'est très important parce qu'on s'aperçoit.
Il se pose la question de savoir s'il la met sur le drap ou en dessous et ne dort plus.
Tout le monde pense que sa tête, en fait, on s'aperçoit qu'elle est très lourde.
Oui.
Et qu'il faut vraiment calculer un endroit où elle pèse sur rien. Sinon, alors, c'est les crampes.
On sent qu'elle a besoin d'un ostéopathe.
Ah oui, moi, je gromade à mort.
Après.
Grassolette.
Oui.
Grassolette, c'est les restes sur le bord de l'assiette déposés par la fourchette et surtout le couteau. La gélatine ou la graisse de pâté, le gras de viande, les arêtes de sardines, tout ce qui est un peu sur le bord, là.
C'est moins poétique que la mousse du champagne, c'est vrai.
Ah oui, absolument. Mmh. Enfin, c'est. Mmh. Et là, il y a une citation de Proust.
Ah oui.
Oui. Elle parlait, et tous ces mots, pour moi, n'étaient que grassolettes. Et pourtant, le suprême de dinde l'était vraiment. Et il ne restait rien qui ne puisse être dégusté, sans en détacher des bouts que l'on était prêt à rejeter.
Oui, bah, c'est un mot
à chaque fois que c'est pour ça que Proust,
ouais.
Tout ça, enfin, oui, il y a vraiment des choses...
Mais on tourne autour, hein. Non, mais il est fin, Luc Affondier.
Alors, Pierre Tacol, c'est un porte-bonheur, c'est le trèfle à quatre feuilles qu'on a dans son agenda, quoi.
Ah bah voilà. Ah,
on a le pertacole, alors qui reste le pertacole avant un moment important.
Ah bah c'est Poutine.
Mais bon, moi je préfère le trèfle à quatre feuilles.
C'est le crâne de Poutine qui porte bonheur. Oui,
je préfère le trèfle que la gueule de Poutine, c'est quand même plus sympa à caresser.
C'est pas le même genre, quoi.
Trapiner, oui. C'est marcher dans la rue, ou sur des... Alors marcher, évidemment, sur la rue, ou sur les chemins de campagne, en shootant névrotiquement sur les cailloux systématiquement, ou des morceaux de bois, ou des canettes de bière... Et pour les renvoyer sur les côtés, pour pas que ça reste sur la route.
Ouais, ça, c'est un grand classique, quoi, de la promenade.
L'espanade, c'est quelque chose que vous connaissez bien, Françoise.
Moi ?
Ouais, énormément.
C'est un passing shot au tennis ?
Non, pas du tout. C'est l'état névrotique créé par les voyages en avion. Nervosité totale, gestes incontrôlés, lecture inconsidérée des journaux, agitation, chewing-gum, mal au ventre, enfin tout. Là, on est en pleine espanade, quoi.
D'accord, oui.
Et puis le rétipat, c'est ce qu'on voit partout maintenant, c'est cette espèce de bride publicitaire à laquelle est accroché le badge.
Ah oui, un cordon de cou. Ah oui, mais alors
non, c'est un rétipat.
C'est tellement mieux. Et alors votre histoire, on peut l'écouter traduite?
En fait, ça arrive à peu près au même point que Lucas, hein. Mais en termes beaucoup plus simples.
Ouais.
Moi, j'ai pas du tout de comment s'appelle, de diarrhée proustienne qui s'empare de moi, ça y va direct. La veille au soir, j'avais longtemps trituré mon oreiller pour trouver à ma lourde tête la meilleure position. Et au matin, résultat, j'étais atteint du même mal névrotique et carabiné que celui qui s'empare de moi quand je prends l'avion. Je suis descendu 3 stations de métro avant celle de mon rendez-vous pour pouvoir faire lentement le trajet pendant une bonne demi-heure en shootant dans tous les cailloux et canettes vides qui se trouvaient sur mon chemin. J'avais peur que mes propositions soient réduites à l'importance de petits restes de gras sur le rebord de mon assiette.
Oui, ça, c'est pas agréable.
Vous n'avez pas le gras ?
Non, pas trop, non. Non, c'est vrai.
Donc j'ai bien la grassolette, comme ça vous pouvez le mettre sur le bord.
La grassolette, c'est mignon.
Étant donné la confiance que j'avais en moi, ça ne m'aurait pas surpris. Arrivé devant la grande porte vitrée, j'ai devant le regard interloqué des vigiles caressé honteusement mon trèfle à quatre feuilles, aplati entre deux pages de mon agenda, et puis... Devant le regard rassuré des mêmes vigiles, j'ai utilisé mon badge accroché à un long ruban bleu.
C'est bien. Alors, il y a peut-être le sens des mots de Jean-Bernard Pouy, plus dans l'action. Et vos sens à vous, Lucas, sont plus dans la contemplation.
Avec Poutine, il y a de l'action.
On l'a subi un petit peu. On est davantage passif. Avec Proust aussi, non ?
Oui, mais JB est l'homme qui porte des badges, qui va dans les colloques internationaux, donc il est
de polar.
Il est beaucoup plus exécutif.
Man.
Oui, man.
Qu'est-ce que vous avez
pensé? Mais je ne souffre pas d'espanade, en revanche.
Vous dites le conseil de ces deux histoires. Après tout, on pourrait proposer ces mots qui sont excellents pour deux sens différents, non? Ou il faut opter?
Non, mais
tout, on les met les uns à la suite des autres, comme ça on s'aperçoit pas de...
Il y a du mystère plus dans le texte de JB, parce qu'on ne sait pas pourquoi il doit aller devant la porte vitrée pour voir qui et faire quoi.
Non, mais en fait, c'est pour venir à une émission des Papous, en passant par la porte A.
bosque de la China, una china se perdió. Y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, una china se perdió. Y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. Era de noche y la chinita tenía miedo de andar solita. Caminó un poco y se sentó junto a la china. Junto a la china me senté yo. Y yo que sí, mal, y ella que no, mal. Y yo que sí, mal, y ella que no. Y al cabo fuimos los dos juntitos. Y al cabo fuimos los dos juntitos de la opinión.
En un bosque de la China, Daniel Melingo. Une nouvelle page du Petit Rimailleur illustré, notre dico papou en vers et subjectif forcément de la langue française. Jacques Vallée, rédacteur du jour. Jacques, vous avez choisi quel mot pour poéter ?
Crapaud.
Crapaud. Alors, Jacques Jouy sauvagement a ouvert le dictionnaire parce qu'il va vous contrôler, Jacques Jouy. Mais c'est un bon contrôleur, hein, ce bâti qui chipouille jamais trop. Enfin, là, il a l'air un peu sec quand même. Pourquoi avez-vous choisi le mot crapaud ?
Parce que je viens de lire un livre passionnant, que je vais citer d'ailleurs, parce que je fais des citations dans mon poème,
oui.
De Jean Rostand, ah oui. La vie des crapauds.
Très bien.
Et c'est passionnant.
Ah mais je n'en doute pas.
En plus, c'est des bêtes qui peuvent être amicales, et,
oui.
Mais qui ont été tellement maltraitées que c'est bien, tout d'un coup, de remettre à l'honneur les crapauds.
Donc c'est un poème d'admiration ?
Non, c'est pour essayer de donner des précisions sur le crapaud.
D'accord.
C'est ça, le dictionnaire, sert à ça.
C'est pas faux. Il y a quelle forme ?
C'est crapaud. Des...
Il y a quatre pattes.
Des quatrains.
Ah ben avec... voilà, quatrains, quatre pattes, oui. Ça marche. Oui.
Avec des vers de huit pieds.
Octosyllabe, donc, aurait dit Jacques Jouy. Mais il a manqué de vivacité là-dessus.
Oui, c'est...
On est parti avec le crapaud de Jacques
Le
Vallée.
Crapaud. Un chant dans une nuit sans air. C'est ainsi que Tristan Corbière évoque le vilain crapaud qui est l'objet de tous les maux. Le crapaud fait tourner le vin, charme les bêtes, les personnes, il souille tout, il empoisonne, il est l'œil même du malin. À Vanini, il fut fatal, brûlé vif pour sorcellerie, parce qu'on a trouvé chez lui un crapaud mort dans un bocal. C'est l'image de la laideur, tête large, le corps trapu, il est recouvert de verrues et son venin rempli de peur. Pourtant, il est pour l'homme inoffensif. C'est un solitaire, un ermite, qui vit le jour sous un massif et qui parfois vous rend visite. Il sort la nuit chercher ses proies, il dévore tout ce qu'il croise, mais il se peut qu'on l'apprivoise. Lors, il reconnaît votre voix. Seul l'amour le sociabilise. Il court alors vers un étang, tient sa femelle étroitement et ne veut plus lâcher sa prise. Alors sa chérie le promène sur son dos, si fort accroché que rien ne peut le décrocher, et ça peut durer des semaines. Bref, l'animal est attachant. Pour tout savoir du Roméo, on lira La vie des crapauds de l'honorable Jean Rostand. Heureusement que le crapaud a les poètes pour appui, nous rappelle Jean-Bernard Puy, en récitant Victor Hugo.
Oui.
Un crapaud regardait le ciel, bête éblouie, grave, il songeait. L'horreur contemplait la splendeur. Oh, pourquoi la souffrance et pourquoi la laideur ? Hélas, le bas empire est couvert d'augustules, les Césars de forfait, les crapauds de pustules, comme le pré de fleurs et le ciel de soleil. Devant cette bête aux abois qu'on accable de jets de pierre, j'en reviens à Tristan Corbière. Bonsoir, ce crapaud-là, c'est moi.
Oh. Très, très bien.
Ah, ouais.
Parfait. Comment s'appelle la femelle du crapaud ?
La crapaude.
La crapaude ? Non, j'hésitais.
Et le petit du crapaud s'appelle la crapaudine.
La crapaudine, ah, ça n'a rien à voir.
Ah, non, c'est rien. La crapaudine, c'est un petit fauteuil. Non.
Ah non, c'est une façon d'attacher les prisonniers terrible.
Ah bon ?
C'est à plat ventre, attacher les chevilles et les poignets.
Ah.
On en meurt. Dans Biribi, ils sont attachés en crapaudine.
Oui, oui. Ah oui, ah bon, alors retournons au crapaud qui est beaucoup plus charmant. Hein. Le crapaud de Jacques Vallée, Jacques Jouy, était extrêmement sympathique. Est-ce que celui du dictionnaire oui, mais n'est
vous,
tout non,
vous auriez dû me donner le livre de Jean Rostand pour faire le contrôle plutôt que le dictionnaire. Mais...
Oui, il est pauvre.
Le dictionnaire est très pauvre.
Ah oui.
Oui, il n'y a rien sur les mœurs du crapaud, il n'y a pas grand-chose, il y a à peine de citations, non, il n'y a vraiment rien du tout.
Il aurait oublié une fonction du crapaud, Jacques?
Peut-être le...
Oui, je l'ai même fait exprès pour que le, ah oui, le contrôleur...
c'est bienveillant.
Ben alors, vous avez un peu de temps, là pour...
Oui, allez-y.
Eh bien, le fauteuil.
Eh oui.
Et voilà. Bah, c'est ce que j'ai dit, voilà, le fauteuil, voilà. Mais je pensais que c'était la crapaudie.
Non, c'est le fauteuil crapaud.
Pour vous le dire, Jean Rostand, on prend un fauteuil crapaud.
Et le piano crapaud également.
Voltaire avait un fauteuil crapaud.
Petit piano à queue, un crapaud. Il n'est pas question non plus du baiser au crapaud, mais ce n'est pas dans le dictionnaire non plus.
Ça, c'est vous qui l'imaginez.
Ah, quand on rencontre un crapaud, on l'embrasse sur la bouche et on a le droit à 3 vœux.
C'est vrai, ça vous est arrivé?
Ah ben, tous les jours.
Ah oui, et ils sont exaucés?
Toujours. Surtout quand le troisième vœu, c'est de demander d'avoir droit à 3 autres vœux.
Ah. Une citation?
Une citation, Maupassant.
Oui.
Oui, c'est pas extraordinaire. Les crapauds, par tout l'horizon, lançaient leurs notes métalliques et courtes.
Ah, c'est pas mal. Bien.
C'est toujours du Maupassant, hein, quand même. Il y a toujours une bonne base chez Maupassant.
Elle n'est pas très courte, la note, mais enfin bon.
Est-ce que Gérard Mordia aurait, lui, une vraie fausse citation?
Oui, moi j'ai une citation de Raymond Aron qui disait « Dans la philosophie de Sartre, il y a toujours un crapaud dans le diamant ».
Ah !
Sympathique.
Oui.
Parce que ça, c'est une exception qui n'a pas été effleurée par Jacques. Le crapaud est une tache dans le diamant.
Oui, exact. Mais il a très peu de diamants, Jacques Vallée, il faut dire. Hein.
Ou alors au Panama.
Et vous, Eva Le Messier?
Moi, j'ai une citation d'Amy Winehouse, donc j'ai traduit d'anglais.
Ah oui?
J'ai pris toutes les drogues, sauf lécher un crapaud. Purée, j'ai manqué le prince charmant.
Et c'est dommage, parce qu'elle ne le rencontrera plus jamais. Oui. Elle le chantait, ça?
Oui.
Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. À suivre jusqu'à 13h58, les papous, tout amour, le bonus. Un enregistrement public des papous dont vous avez pu entendre les deux premières parties, les deux derniers dimanches. Mais comme nous étions restés presque 3 heures ensemble sur la scène du studio 105, restent 3 séquences à découvrir avec la bande ce soir-là des papous, tout amour. Lucas Fournier, Jeanne Carillon, Patrice Minet, Gérard Mordilla, Eva Almassi, Patrice Caumont, Sophie Livry, Hervé Letellier, Odile Conseil, Jean-Bernard Pouy et Gabriel Godard pour nous accompagner en voix et au piano. On va jouer au droit de réponse. Vous savez qu'il y a des personnages de fiction qui sont pas tout à fait contents de l'histoire dans laquelle on les fait mariner ou dans laquelle on les fait poser. Et puis, il y a des personnages de fiction qui sont bien aimés et d'autres pas trop, peut-être parce que leur physique n'est pas avantageux. Et je crois que c'est le cas aujourd'hui avec Lucas Fournier.
Que mon physique n'est pas avantageux?
Non, vous êtes très bien. Non, je parlais du personnage de fiction que vous incarnez en quelque sorte.
Oui, et qui marine un peu.
Et qui est qui?
Comme vous dites. Je suis la raie.
Ah!
La raie la plus célèbre de la peinture mondiale.
Alors, c'est la raie de Chardin. Marie, vous voulez bien nous envoyer la raie de Chardin? Voilà, c'est le tableau de la raie de Chardin. Bon, elle n'est pas sexy, c'est vrai. Mais bon, c'est vous, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, Jean-Bernard Pouy, je sais que la raie de Chardin est un de vos tableaux préférés avec l'asperge de Manet. C'est deux choses un petit peu différentes, mais c'est comme ça.
Avec la raie d'autobus de Jean-Michel Basquiat.
Oui, aussi. Donc, pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité, les gens qui sont dans la salle, nous et ceux qui nous écoutent à la radio, ce serait bien de faire une description de la raie de Chardin. Alors, c'est trop facile de la faire comme ça, donc je vous ai imposé un petit exercice de style, un nouveau, un deuxième, qui serait de faire la description sous forme lipogrammatique. Donc, un lipogramme en E, c'est-à-dire pas de E, dans tout votre texte. La raie de Chardin.
Ah, Chardin.
Ouais.
Déjà, il n'y a pas de E, donc... Il s'agit, là, d'un chat. Un minou, un mignon minou,
qui, Froussard, paraît craintif à la vision d'un grand poisson plat, mort, tripal, quasi humain, souriant, on ne sait pas pourquoi, à coup sûr puant, un poisson qui fait plaisir aux gourmands, cuit à la plancha, mais pour l'instant sanguin, la chair carmin à nu. Tout ça dans un grand charivari, un tas quasi crado, un chaos pour marmiton, peau, plat, fétou, poisson, torchon, carafon, flacon. Mais la confusion du minou surgit plutôt à la vision d'un fruit marin, l'ostrica, pour un Romain, un Milanais ou un Napolitain, toujours vivant, palpitant, issu d'Arcachon, Fouras ou Thau, ardu à ouvrir, roi absolu du lunch mondain, miam miam absolu d'un mois sans air.
C'est très très bien, hein. Et puis, en l'écoutant, on voit bien le tableau, c'est vrai, hein, même si on l'a pas sous les yeux. Non. Alors donc, c'est vous.
Non, alors non, comme d'habitude, il y a deux erreurs. D'abord, vous mettez pas deux dans l'arrêt et l'arrêt pond des œufs pour commencer. Et deuxièmement, je ne suis pas du tout l'arrêt de Chardin. Et comme d'habitude, on parle que d'elle. Oui. Non, moi, je suis l'arrêt du milieu.
Du milieu.
L'arrêt au milieu du tableau d'Archimboldo.
Ah, vous voulez bien, Marie, nous envoyer Archimboldo,
Vous l'avez
l'arrêt. Oh, ben, on a tout.
1566.
C'est France Culture 1566. Ici, vous savez. Là, voilà.
Ah, ben voilà.
Ah, vous êtes la chose qui dégouline sur la joue, là.
Oui, alors on ne voit pas tout de suite. Hein.
Non.
On est 62 sur le tableau, vous voyez, des poissons, coquillages et crustacés sur la toile abandonnée, ohé ohé, hein, et qui composent un visage d'homme.
Oui.
Vous ne pouvez pas me manquer, parce que je suis la joue du personnage. Mmh. Juste sous la gamba qui fait le sourcil, et au-dessus du requin qui fait les dents de la mer, bien sûr, et la bouche aussi. Je ne suis ni carpe ni carpette, et j'ai des choses à dire à mon créateur, qui est Giuseppe Archimboldo.
Absolument. Oui.
Donc je vais faire un petit manifeste syndical. Mm-hmm. Monsieur Archimboldo, vous aviez cru malin de prendre des poissons pour modèle parce que, comme dit Lambert Wilson, enfin ou plutôt le commandant Cousteau, un poisson, ça ferme sa gueule ou ça se jette à l'eau.
Ah.
Eh bien, le prolétariat aquatique, on ne l'écoute pas chez les requins du business culturel, évidemment. Sauf qu'en tant que raie, je peux aussi pousser la note, comme les sols d'ailleurs. Je n'ai rien dit depuis 450 ans, mais là, trop, c'est trop. Et j'ai d'abord des revendications collectives dont j'ai saisi le CHSCT.
C'est-à-dire ?
Le comité hygiène et sécurité. Premièrement, sur le tableau, nous sommes serrés comme des harengs. 62 dans un espace pictural de 66 cm sur 50, soit 52 cm carrés par tête, 5 fois moins que ce que la directive européenne de 1999 sur la protection des poules pondeuses autorise. Est-ce que nous, les merlans, les maquereaux, valons moins qu'une poule ? Oui, alors, les bulots ont besoin de moins d'espace pour s'exprimer, mais le mérou, hein, sur le tableau, ou le phoque, oui, parce qu'il y a un phoque dans la troupe.
Il est où ? Bon ?
Oui, là-haut. Monsieur Archimboldo, avant d'être un homo sapiens, nos ancêtres n'étaient pas une poule, mais un amphibien. Et en nous maltraitant, c'est Lucie que vous assassinez. Deux, depuis 1566, on ne nous a pas donné d'eau. Non, certes, il n'y a pas d'eau dans le tableau, c'est de la peinture à l'huile. Pourtant, le tableau s'appelle l'eau. On nage dans l'oxymore. Et l'oxymore à l'hameçon. Oui, oui, oui.
Elle est rigolote.
Et je note que dans les poissons rouges, le tableau de Matisse, les poissons rouges ont droit, eux, à un bocal plein et toujours propre. Trois, on nous expose au Kunsthistorisches Museum de Vienne, Autriche. Si Vienne était un port de mer, Magellan, Jules Verne, l'amiral Nelson ou Tabarly l'auraient remarqué. Pas vous, non. La plage la plus propre, selon Mappy, est à 466 km. À Trieste, chez D'Annunzio. 4h40, encore si ça roule. Vous me direz, il y a bien le Danube, mais alors il y a erreur de recrutement. Il fallait prendre des poissons d'eau douce, mais pas des palourdes ou des rascasses. Vous pourriez au moins nous relocaliser au bord de la mer, au Mucem, à Marseille, à l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg. 4. Nous sommes 62 sur le tableau. Et pas lavé depuis 1565.
Ah oui, ça pue un
peu.
Pardon.
Oui, ça, on sent la marée devant l'œuvre. Ça, c'est vrai. Oui. Le poète a dit, il est des parfums frais comme des chairs d'enfants et d'autres corrompus, riches et triomphants. Non, nous, c'est mieux qu'un triomphe, c'est une apothéose. Hein. Ce n'est plus le numéro 5 de Chanel, c'est le numéro 65 de English Chanel. Voilà ce que j'avais à dire au nom des travailleurs de la mer réquisitionnés dans votre œuvre. Bon, mais Françoise, aussi nécessaire et exaltante que soit l'action revendicative collective,
mon cas personnel est un peu plus important que celui du menu fretin de mes camarades balnéaires, là, derrière. Alors, je ne reviens pas sur le contentieux Chardin.
Non.
Au moment d'exécuter son tableau, en 1728, il avait pensé à moi, bien sûr. Comme modèle, oui. Et à l'époque, j'étais d'accord pour être transféré dans l'équipe du Louvre, parce que l'œuvre est au Louvre, au mercato d'hiver. Et M. Archimboldo n'a pas voulu, ils ont pris un second rôle. Le tableau, du coup, est un désastre, vous l'avez vu devant vous. Voilà. Moi, depuis 650 ans, j'ai le même emploi. Alors j'aspire à un peu de mobilité professionnelle. J'ai fait du bon boulot, j'ai été fédératrice. Regardez bien le tableau. Si vous m'enlevez, tout s'effondre dans le visage. Oui, je suis la joue du personnage. Donc, si je pars, vous avez l'œil du merlan frit qui dégringole sur la dorade, laquelle fait office de menton, tandis que le phoque, qui est sur le front, vous le cherchez, il est sur le front, s'affaisse sur le cabillaud qui sert de mâchoire avec les dents du requin. Et c'est plus une nature morte, ça devient une brandade. Bref, j'ai assuré, mais je pense qu'un ton ferait très bien l'affaire. Hein. Le ton, c'est important dans la peinture. Ou alors une truite arc-en-ciel, ou une dorade, enfin. On a beaucoup servi de poisson depuis Chardin, mais il n'y a jamais rien eu pour moi. Chez Schubert, mes illusions ont été détruites. Pierre Loti, lui, en tenait pour la morue. Jules Verne voulait du calmar, Hemingway de l'espadon et les studios Pixar, des poissons exotiques. Alors, monsieur Archimboldo, je sais que vous connaissez bien le milieu de la peinture, et c'est là que je peux m'exprimer le mieux. Je suis sûr que votre ami Ingres serait ravi de me glisser dans son peinture qu'au milieu des baigneuses. L'arrêt des baigneuses, quel beau titre ce serait.
Ouais, oui. C'est un peu bizarre quand même.
Ou alors Léonard de Vinci, si vous préférez.
Oui.
On pourrait changer sa jeune fille à la perle en jeune fille à l'arrêt.
Je ne sais pas si c'est mieux.
Bah, écoutez, Archie, je vous tends la perche. Et alors ne cherchez pas à noyer le poisson et répondez à nos justes revendications collectives. Et surtout, donnez-moi enfin le rôle de ma vie. Sinon, moi, l'arrêt, je me mets en courant continu. Vous savez ce que je veux dire, hein, je peux le faire façon micro-ondes et je transforme tout le tableau en fish and chip.
Elle a un vrai problème, la pauvre petite chérie. Et Gérard Mordillat, vous seriez Archimboldo?
Je le suis, c'est moi. Et je réponds à l'arrêt, bien entendu.
Ah bon, voilà, ça c'est gentil.
Ma chère Ray, vous voulez changer d'emploi? Pourquoi pas? J'ai actuellement tant de commandes que je suis même en mesure de vous donner le choix de votre nouvelle affectation. Des USA, je dois faire le portrait d'un champion du monde de boxe. Si cela vous tente, vous pourriez figurer en très belle place sur le visage de Ray Sugar Robinson, où vous feriez l'arrêt au beurre noir.
Oui.
De France, la maison de la photographie me réclame un portrait de Man Ray, où vous seriez très bien. De Paris encore, M. Martin Bouygues lance une nouvelle opération de petit pavillon pour laquelle je dois assurer la publicité. Si cela vous amuse d'être sur une affiche de 4 par 3, je vous propose d'entrer dans le slogan du projet. Do, ré, mi, la, do, ré. D'Italie, où je suis requis pour l'habillage des chaînes publiques, qui en ont vraiment besoin. Je vous laisse le choix. Vous pourriez faire ré, uno, ré, doué, ré, tré. D'Espagne, le Prado est enfin décidé à rendre hommage à son plus grand tueur de taureau bravo. Et je vous vois très bien posé pour immortaliser Manolete, le célèbre toréador. De Paris encore, mon collègue Buren sollicite un prêt pour remplacer les décorations bien vieillies du Palais Royal. Si la compagnie ne vous effraie pas, libre à vous d'être des nouvelles raies qu'il appelle de ses voeux et qui sont sa marque de fabrique. Plus modestement, mes élèves des arts appliqués seraient sans doute heureux de vous accueillir sur une pochette de disques de Ray Charles, de Ray Ventura, ou sur la couverture d'un roman de Jean Ray, voire sur une publicité pour les lunettes Ray-Ban. Aujourd'hui, c'est votre chance. La Ray est à la mode. La Ray est in. Fini les Ray jaunâtres à la Chardin. Vive la Blu-ray postmoderne. Ma chère Ray, et en disant ma chère Ray, je dis presque ma chérie, je veux t'en faire voir de toutes les couleurs, sous tous les cieux, dans tous les pays, car ma gloire et ma prospérité seront aujourd'hui et pour toujours d'avoir exalté la République.
Je n'y crois pas. Je suis athée. Bref.
Ah, mon Dieu! Les papous, dans la tête, les papous, tout amour au studio 105. C'est la récré de France Culture. Et maintenant, pour rester dans la Renaissance, une chanson, a cappella, Jeanne Carillon, Gabriel Godard.
Il était une fillette qui voulait savoir le jeu d'amour. Un jour qu'elle était solette, je lui en appris deux ou trois tours. Après avoir senti le goût, elle me dit en souriant: le premier coup me semble lourd, mais la fin me semble friante. Je lui dis, vous me tentez, elle me dit, recommencez. Je l'empoigne, je l'embrasse, je la fringue fort. Elle crie, ne cessez, je lui dis, vous me gâtez. Laissez-moi, petite garce, vous avez grand tort. Mais quand se vint à sentir le doux point, vous l'eussiez vu m'ouvrir si doucement que son lascar lui tremble fort et pointe.
Mais Dieu merci,
c'est un doux tourment. Mais quand se vint à sentir le doux point, vous l'eussiez vu m'ouvrir si doucement que son lascar lui tremble fort et pointe.
Mais Dieu merci,
c'était un doux tourment.
Allez, en place pour la publipapoucité. C'est le moment pub, c'est l'heure de la réclame. Cette publipapoucité a été imaginée par un homme de pub, c'est Patrice Caumont. Et comme c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, il a écrit des jolis rôles pour Jeanne Carillon, pour Hervé Le Tellier, pour Lucas Fournier, et une jolie chanson pour Gabriel Godard qui l'accompagnera au piano. C'est parti, est-ce que vous sentez cet instant, Patrice Caumont, ça va ?
Je le sens.
Allez, c'est parti, publipapoucité, les feuilles d'automne ou les amours d'automne.
Ça vaut le coup d'attendre l'automne à la mi-novembre, le cœur est plus tendre.
Surtout pour les choux-fleurs, faut laisser passer les primeurs. Mais je t'ai cassé ton haïku.
Tu sais, il n'y a pas que les haïkus et Vivaldi pour faire dans le produit de saison. Tous les poètes remplissent leur bulletin trimestriel.
Et c'est l'automne qu'ils préfèrent, comme les prix littéraires et Apollinaire.
Mon automne éternel ou ma saison mentale.
Ou Lamartine quand fait des tartines.
Voici les feuilles sans sève qui tombent sur le gazon.
Des feuilles d'automne hugoliennes à la chanson de Verlaine. Si les jours sont plus courts, les sanglots et les violons sont carrément plus longs.
C'est la saison qui veut ça. L'automne, c'est la muse rousse.
C'est plus fort qu'eux. Au premier frima, faut qu'ils friment.
Les poètes en font des tonnes.
Question d'hormones. À l'automne, les cerfs et les poètes, y a pas, faut que ça brame.
Alors, quand les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les alexandrins aussi.
Vas-y, Victor.
Quand novembre de brume inonde le ciel bleu.
Et vas-y, Guillaume.
Oh, l'automne a fait mourir l'été.
Et vas-y donc, Stéphane.
Mon âme vers ton front où rêve aux calmes sœurs, un automne jonché de taches de rousseur.
Vous oubliez les décasyllabes. Voici novembre et son manteau grisâtre.
Ouais, forget Verhaeren, mais remember November.
Novembre, c'est du grand Victor.
Quand l'automne abrégeant les jours qu'elle dévore, éteint leur soir de flamme et glace leur aurore.
Sanglots longs des violons de l'automne percent mon oreille sous l'appareil sonotone. Les lourds flonflons de leurs tromblons ça détonne. leurs sanglotons de mirlitons font des tonnes. Les vers trop longs de ces Apollons m'assassinent. Tous ces auteurs font des longueurs de piscine.
C'est vrai que c'est la saison la plus dure de la feuille, mais quand sonne automne, on ne peut rester sourd à son appel.
L'été indien, c'est leur démon de midi, le retour de flammes sous bedaine.
Et faute de jupons, on trousse quelques vers.
Plus les jours raccourcissent, plus les poèmes s'allongent, et l'on se repasse les diapos d'amour bien au chaud.
C'est la chanson en chaussons, le pantoum en pantoufles, la cantate en savate et l'épigramme en pyjama.
On gémit en robe de chambre et en verre, sur le soleil bas et l'amour trahi,
sur les filles de feu et la rose fanée de l'oubli,
sur l'écrin vert taché d'or et le bonheur enfui.
On chigne bien au chaud.
On laisse la jeune parc au parking.
Et l'on fait une croix sur le cimetière marin, le cul sur un coussin.
Ou bien, choupe à choupe au bec, on se lamente sur la menthe et on se tartine la tarentine.
Alors le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, mes bons princes abolissent une bouteille de Château-Latour d'Aquitaine.
Car jamais l'on ne versifie ses larmes sans en verser une.
Et vive l'automne !
Vive l'automne !
Ouais, enfin bon, vivement le printemps aussi. Hein.
Tiens, voilà l'été indien qui revient.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi indien que cet automne-là. Les plumes des poètes avaient coiffé nos têtes. Nous fumions des calumets d'herbe en récitant leurs pages. Était-ce Verlaine et sa chanson d'automne? Était-ce Baudelaire, Apollinaire ou Césaire? Oui, t'aimais Césaire. C'était une saison d'enfer. Là-bas, on l'appelle l'été rimbaldien. Tu lisais le Tasse, une tasse à la main. Nous buvions alors, my darling, du Darjeeling, le thé indien.
On lira ce que tu voudras même sous les draps. Et l'on relira Paul Fort ou bien des bords de Valmore. Toute la nuit et même jusqu'au petit matin, sans douleur, on se fera des quatrains.
Aujourd'hui, j'ai rongé mon desnos jusqu'à l'os. Et toi, que lis-tu? Qui relis-tu? Tu dévorais les amours jaunes de Corbière. Je m'en souviens. C'était hier. Je me souviens. Il n'y a pas péril dans la demeure. Avec ta robe de grossesse, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laure enceinte. Nous dévorions alors des nouilles pimentées au saté indien.
Tu liras Tristan Tzara ou Gongora et Rabindranath Tagore quand t'auras fini Butor. Sans desnos ni sans gore tes jours sont chagrins.
Lisions-nous alors Dante ou Tagore? C'était l'enfer, au bord du fleuve, au bord du Gange, ce l'été indien. Je t'avais emprunté Aragon, Gongora et même Éluard. Mais je ramène ton char. J'ai trouvé la paix avec Pavèse et Pessoa. J'aimais Shelley et toi, Sheila.
On sort lorsqu'on n'aura plus de victoire. Les poètes sont des rouleaux de papier peint, leurs douleurs n'ont jamais de fin.
On lira tout ce qu'on pourra tant qu'on voudra, et l'on relira encore lorsque le papier sera mort.
Les poèmes sont des tartines de bon pain, leur chaleur nous donne toujours faim. La la la
la
la la la la la la la la la
la la la la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
Chante bien, Patrice. Gabriel, encore mieux, il faut bien dire les choses.
Oh, tu me pousses.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard, avec Anne de Pelchin, Pierre Mine, Bernard Laniel, Romain Lenoir, Régis Nicolas, à podcaster pendant un an sur franceculture.fr pour la réécoute, pour voir les photos et déposer vos commentaires, direction nos pages Facebook et les papous sur franceculture.fr Facebook, où vous pouvez nous rejoindre en toute complicité. Voilà, on se retrouve dimanche à 12h50. Au revoir, passez un bel après-midi bien au chaud et en bonne compagnie sur France Culture.